Paul voulait se réunir
avec tous les frères et sœurs de Troas.
Donc il a attendu jusqu'au dimanche afin de prendre le repas du Seigneur avec eux. Dans la manière dont Luc explique cette réunion, ou plutôt il n'explique pas cette réunion, c'était que c'était quelque chose de normal. C'était habituel pour eux
de se réunir le premier jour de la semaine. Donc, est-ce qu'ils se réunissaient à 10 heures, comme nous, dimanche? Au verset 8, il dit qu'il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Et on voit que le discours de Paul se prolonge jusqu'à minuit. Donc, ils se réunissaient dimanche soir pour prendre le repas du Seigneur, après le coucher du soleil. Pourquoi attendre le soir? Car pour eux, le dimanche était un jour de travail comme les autres. Même avant la lumière du jour, ils avaient des tâches à faire, surtout les esclaves. Le meilleur moment pour se réunir était le soir, après la journée de travail. Alors pourquoi ne pas se réunir le samedi, par exemple, le sabbat, jour de repos pour les Juifs? Mais nous sommes à Troas, en Asie mineure, une ville de culture grecque. Paul était accompagné de païens. Il se trouve dans une ville païenne, avec probablement des frères et des sœurs païens, qui travaillent aussi le samedi. Certaines personnes disent qu'ils se sont réunis le samedi soir, ce qui pourrait être possible selon la chronologie juive. Mais pourquoi Paul utiliserait-il une chronologie juive pour parler d'un événement qui a lieu dans une ville grecque? Cela n'a pas de sens. Donc ils se réunissaient après une longue journée de travail, après le coucher du soleil, le dimanche, pour être ensemble, pour prendre le repas du Seigneur. Il y a 2 semaines, un dimanche soir, nous avons eu une réunion de famille, chez moi, avec tous les membres de ma famille, avec aussi mes parents, ensemble, une réunion de famille. Nous avons mangé ensemble, ce qui est normal pour une réunion de famille. Nous avons parlé, nous avons rigolé, nous avons partagé un moment intime en famille. Et nous avons fêté avec un peu de retard l'anniversaire de Doyle avec un pecan pie en son honneur. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un pecan pie, demandez à Barbara, celle qui l'a préparé. Nous étions contents de nous retrouver ensemble en famille, avec Doyle et Barbara, qui nous ont fait part de leur projet de déménagement aux États-Unis. Les frères et les sœurs de Troas se sont retrouvés en famille pour prendre le repas du Seigneur, pour passer du temps ensemble, et cela après une longue journée de travail. Pourquoi Luc spécifie-t-il que c'était le premier jour de la semaine? Jésus a partager le repas du Seigneur avec ses apôtres un jeudi soir. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que ce serait plus logique de prendre le repas du Seigneur un jeudi soir? Pourquoi donc prendre le repas du Seigneur le dimanche? Car c'est le 3e jour. C'est le jour de la résurrection de Jésus par Dieu. Le jour que Jésus a prédit que Dieu allait le ressusciter. Regardons un passage dans Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24, les versets 1 à 7. Luc 24, 1 à 7. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée et qui disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Lorsque nous fêtons le repas du Seigneur institué par Jésus, nous allons le faire tout à l'heure, nous fêtons sa mort et sa résurrection le troisième jour, jusqu'à ce qu'il vienne. Il est donc logique de fêter la résurrection de Jésus le dimanche, le troisième jour, pas un joli soir. Est-ce que c'est par hasard que Jésus est apparu deux fois à ses apôtres lorsqu'ils étaient réunis ensemble dans une même pièce un dimanche? Que le Saint-Esprit est venu par hasard le jour de la Pentecôte un dimanche? Les écrits historiques du deuxième siècle disent que les chrétiens se réunissaient le premier jour de la semaine pour prendre le repas du Seigneur. C'était pour eux le jour du Seigneur. Mais qui leur a dit de faire cela? Est-ce qu'il y a un commandement dans la parole qui dit « Prenez le repas du Seigneur le premier jour de la semaine » Il n'y a pas. Mais ils étaient avec les apôtres et eux, ils se réunissaient toujours le premier jour de la semaine pour prendre le repas du Seigneur. Donc ça leur semblait logique. Toute la signification, la résurrection de Jésus par Dieu, la venue du Saint-Esprit, l'autorité suprême de l'Église donnée par Dieu, se retrouve dans le repas du Seigneur. J'aime beaucoup cette pensée de réunion de famille. Une famille qui se donne rendez-vous une fois par semaine pour partager ensemble un repas symbolique. Beaucoup de passages parlent des chrétiens en tant que frères. Il y a aussi quelques passages qui mentionnent les sœurs. 1 Jean chapitre 3 verset 1 nous dit « Voyez quel amour le Père, c'est le Père de famille, nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. » C'est un grand honneur d'être un enfant de Dieu. 2 Corinthiens 6, 18 dit « Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est un honneur d'être appelé fils ou fille de Dieu. Dans Éphésiens 3, verset 15, Paul prie pour que les Éphésiens en disant « J'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. » Et quelques versets plus loin, « Que vous puissiez comprendre avec tous les saints. » Toute famille dans les cieux, c'est tous les saints. C'est qui tous les saints? C'est nous tous les saints. C'est nous qui est la famille dans les cieux. Les frères et les sœurs forment une famille spirituelle dans les cieux. Le mot grec pour famille, c'est le même mot que pour maison. Parfois, on a une traduction qui est famille, parfois on a une traduction qui est maison. Un exemple, on a par exemple la famille ou la maison de Stéphanas. On pourrait dire famille, on pourrait dire maison. Éphésiens chapitre 2, verset 19, dit que nous sommes concitoyens des saints, gens de la famille de Dieu. Nous sommes les gens de la famille de Dieu. Je suis de la famille de Dieu, plus précisément, je suis de la famille de Dieu à Genève, et je me réunis chaque premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, avec mes frères et mes sœurs, pour prendre le repas du Seigneur ensemble. C'est un moment important de la semaine. Je vais tout faire pour ne pas manquer ce moment important. Ma famille est ensemble pour reconnaître ce que le père de famille nous a fait, nous, ses enfants. C'est donc une priorité pour moi d'être dans cette réunion de famille le dimanche. Lisons dans 1 Timothée chapitre 3, les versets 12 à 15. 1 Timothée chapitre 3 et versets 12 à 15. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison. Nous avons ce même mot maison ou famille. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Quelques traductions ont dans la famille de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il parle des diacres, il parle de bien gérer leur propre maison, leur propre famille. Et ensuite, il dit comment se conduire dans la maison de Dieu. On pourrait dire dans la famille de Dieu. Et la famille de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. La famille de Dieu, c'est l'église de Dieu. Et ce qui identifie cette famille, c'est que c'est celle qui est la colonne et l'appui de la vérité, selon ce verset. Nous sommes l'appui et la colonne de la vérité. Nous sommes les représentants sur terre de la vérité. En Éphésiens 4, il parle du corps de Christ. Et au verset 14, il ajoute « Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par tromperie des hommes, par leurs ruses et les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Qui est le chef de la famille? C'est Christ. Et qu'allons-nous faire comme représentants dans cette famille? Nous allons professer la vérité dans l'amour. Nous sommes les enfants de cette famille qui disent la vérité. De nouveau, la famille de Dieu est identifiée par ceux qui sont dans la vérité. Il est donc important de connaître la vérité pour ne pas être emporté à tout vent de doctrine. Alors dans cette réunion de famille à Troas, qu'ont-ils fait une fois ensemble, après avoir partagé le repas du Seigneur? Ils ont écouté et discuté de la vérité. Paul s'entretenait avec eux et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Le verbe « entretenait » implique qu'il y a un dialogue. Ils se parlaient de la vérité, ils expliquaient des choses, ils posaient des questions. Lorsque la famille était ensemble, l'étude de la parole de Dieu avait une place importante. Ils n'ont pas regardé l'heure en écoutant la vérité. Paul a prolongé son discours jusqu'à minuit. Il a mangé et il a encore continué après jusqu'au lever du soleil. Lisons la suite dans Actes 20, versets 9 à 12. On revient dans Actes 20, les versets 9 à 12. Or un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea et parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Le jeune homme fut ramené vivant. Ramené où? Le passage ne parle pas de ses parents. Ce n'est pas certain, mais il semble que ce jeune homme, on ne sait pas quel âge il avait, probablement assez âgé pour être dehors jusqu'à minuit, il est venu seul, sans sa famille. Probablement, ils étaient nombreux dans cette pièce du troisième étage. Probablement, toutes les personnes présentes connaissaient le jeune homme et se sentaient en partie responsables de lui. Ils étaient profondément touchés par ce qui lui est arrivé. Qu'allons-nous dire à ses parents? Il est mort. On va leur dire, il est tombé d'une fenêtre du troisième étage. Donc c'était un moment de tristesse, un moment d'angoisse pour eux. Mais à la fin du passage, on voit que c'était une grande consolation. Ouf, Dieu a ressuscité ce garçon. Une famille spirituelle se réjouit avec ceux qui se réjouissent et pleure avec ceux qui pleurent. Romains 12, 15. Quel est votre souci pour vos frères et sœurs? Avons-nous vraiment le même Père? Lorsqu'un frère ou une sœur n'est pas là le dimanche pour la réunion de famille, pour le mardi soir, avons-nous un souci pour lui? Bon, il faut déjà que nous soyons nous-mêmes présents pour savoir qui est absent. Regardons ce que la famille de Dieu faisait tout au début. Regardons dans Actes chapitre 2, les versets 42 à 47. Actes 2, les versets 42 à 47. Que faisait la famille de Dieu au début? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de lui, tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ils avaient des moments d'enseignement, comme Paul qui enseigne à Troas. Ils avaient la communion fraternelle, comme une réunion de famille, heureux d'être ensemble. Ils avaient la fraction du pain, c'est comme le repas du Seigneur. Ils avaient la prière. Dans Actes 20, ils ne mentionnent pas la prière. Par contre, quand ils ont vu le jeune homme tomber de la fenêtre, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont prié. Cette famille était ensemble tous les jours. Et ils mangeaient ensemble. C'est un peu comme notre agape. Après la grande consolation suite à la résurrection du jeune homme, et après plusieurs heures d'enseignement, il dit qu'il a mangé. Paul a mangé, oui. Probablement, ils ont mangé avec lui. Paul a repris des forces. Et ensuite, il a continué d'enseigner. En acte 2, il dit qu'ils mangeaient ensemble avec joie et simplicité de cœur. Ils étaient heureux de se réunir, de manger ensemble. Probablement que ceux qui avaient plus de moyens apportaient plus à manger que les autres. C'est un moment important lorsque la famille est réunie pour manger ensemble, de se parler, de se connaître, de partager vos soucis, vos besoins, les uns avec les autres. Juste un petit exercice. Pensez à la dernière agape ensemble. C'est pas si loin, il y a 2 semaines, lorsque nous étions ensemble pour l'agape. Avec qui avez-vous parlé? Qui vous a sincèrement demandé comment vous allez? Qui était là à côté de vous? Peut-être qu'il y avait le futur collège des frères qui était là. Moment idéal pour faire le suivi des membres. Les réunions de prière sont aussi un moment très important pour la famille qui se réunit ensemble. Je ne sais plus si c'était mentionné dans le collège des frères, le moment important de prier ensemble pour chaque frère et sœur de l'Assemblée. Mais je pense que ça va de soi. Nous avons vu dans Actes 2 que la famille persévérait dans les prières. Persévérait. Ça demande un effort. Ça demande un effort de venir à la salle le vendredi soir à 20h pour prier ensemble. Peut-être que c'est normal pour nous, dans nos agapes, d'avoir un mélange culturel. Déjà, on regarde les plats, il y a un grand mélange culturel. On a des personnes qui viennent de plusieurs pays, de plusieurs couches sociales différentes. On peut dire que nous sommes une famille multinationale. Dans notre famille, le riche a la même voix que le pauvre. Mais cette identité familiale est encore plus exceptionnelle à l'époque. Imaginez leur agape, dans une chambre haute, avec probablement peu d'espace, avec des juifs et des païens, ensemble, qui mangeaient sous le même toit. Déjà exceptionnel. Avec des maîtres et des esclaves, ensemble. Avec des hommes et des femmes, ensemble. Avec des jeunes hommes. Une personne qui serait venue de l'extérieur et qui rentre pourrait se poser pas mal de questions par rapport à leur culture. Mais les personnes extérieures n'étaient pas leur souci principal dans leur réunion de famille pour prendre le repas du Seigneur. C'est avant tout une réunion de famille. Les personnes extérieures à la famille ne sont pas exclues, bien sûr. Mais il faut qu'ils se voient, il faut qu'ils voient depuis l'extérieur une famille unie, une famille heureuse d'être ensemble, une famille qui partage tout, une famille qui fait les choses avec bienséance et ordre. Une réunion de famille est aussi une réunion avec plusieurs générations ensemble. Ce n'est pas juste les ados dans un coin, ou juste les femmes dans un coin. Ce n'est pas les personnes âgées qui sont mises de côté. C'est une réunion de toute la famille. Regardons un passage en 1 Timothée, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5. Les versets 1 et 2. C'est des recommandations de Paul à Timothée. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Ça fait penser à une famille. C'est une famille. Des vieillards, des jeunes, des hommes, des femmes. Et c'est une famille qui est accueillie par notre Père, le Père de famille, Dieu. Et comment est-ce que notre Père nous accueille dans sa famille? Nous qui sommes des membres de sa famille, des enfants pas toujours sages, des enfants qui ne sont pas parfaits. Alors j'aimerais terminer avec le dernier passage en Luc chapitre 15, verset 17. Luc, chapitre 15, et le verset 17. Donc, c'est un des fils. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Et le fils lui dit, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Ça, c'est une réunion de famille. Une réunion de famille où nous sommes invités par notre Père pour rompre le pain. Donc après une petite pause, nous allons passer un moment ensemble pour rompre le pain, pour prendre ce repas ensemble, en famille. Merci, on fait la pause.